Même si le Christ a connu de nombreuses embûches, des oppositions, même s'il a reçu des menaces, il faut aussi reconnaître qu'il a remporté un franc succès auprès des populations et notamment chez les plus déshérités des hommes. Les oreilles s'ouvrent, les cœurs aussi, à la parole libératrice que le charpentier de Nazareth, fils unique de Dieu, est venu offrir au monde. L'homme est fait pour Dieu, et quand il le rencontre, quels qu'aient été les chemins qu'il a empruntés par le passé, il se rend à l'amour qui vient le chercher. Cependant, Jésus se rend compte aussi que les plus croyants des hommes et les autorités religieuses en tête ne le supportent pas, et que leur désir secret est de l'éliminer en raison même du succès qu'il obtient auprès du peuple. Aussi Jésus en est profondément peiné, car depuis 2000 ans, depuis Abraham, son père prépare le cœur et l'esprit d'Israël à la venue de son fils. Hélas, les pharisiens et les autres scribes se sont emparés de la sagesse de Dieu. Ils l'ont tournée à leur sauce, ils ont fermé la porte du paradis à ceux qui ne marchaient pas au pas derrière eux. Et cela, Jésus ne le supporte pas. Il n'accepte pas que l'on contourne la loi d'amour de son Père. Il ne supporte pas le juridisme excessif, l'oppression légale. Il ne supporte pas que les appels à la conversion, conversion à l'amour, ne soient pas entendus et reçus par les rabbis qui passent leur temps à déblatérer contre lui avec la volonté d'éloigner le peuple de sa personne. Dès lors, de temps en temps, entre deux miracles et deux enseignements, Jésus dit sa peine, mais aussi sa colère. L'étroitesse de vue, la dureté de cœur des pharisiens le mettent hors de lui. Quand on pense que ces derniers demandent encore un signe de la part du Christ, alors qu'il a déjà guéri des dizaines de personnes de façon spectaculaire, mais c'en est désolant. Nous ne sommes pas au cirque, le Christ ne fait pas son numéro et il n'a rien à prouver. Il entend simplement faire reculer le malheur dans des vies humaines. Aussi ce matin, à tous les bornés de la terre, incapables de lui accorder leur confiance, il répond qu'il n'accepte pas leur défi. La seule preuve de sa divinité, ils la recevront plus tard. Après sa mort, dit-il, après ses 3 jours au tombeau, à l'image du petit prophète Jonas, qui passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine avant d'être rejeté sur le rivage des hommes, plus vivant que jamais. Vous connaissez bien l'histoire. Jonas s'était rendu, à la demande de Dieu, à Ninive, ennemi public numéro 1 d'Israël, pour exiger de ses habitants un changement de vie. Et il faut bien reconnaître que les païens ont écouté sa voix. Ils ont quitté les sentiers tortueux de l'égoïsme pour finir dans les bras de Dieu. Et pourtant, Dieu sait si les Ninivites étaient pécheurs. Quant à la reine de Saba, que Jésus cite en exemple, elle a fait des centaines de kilomètres, sans doute à dos de chameau, pour aller récupérer sur les lèvres de Salomon la sagesse de Dieu. Et l'on peut penser qu'à son retour dans son pays, elle a communiqué cette sagesse à son peuple, qui, comme un seul homme, a suivi l'unique Dieu de l'univers. Jésus laisse entendre qu'à l'heure du jugement dernier, Jonas et la reine de Saba se donneront la main pour condamner les témoins oculaires du Christ qui n'ont pas cru en sa parole et en sa personne. Et maintenant, pensons à notre vie. Jésus serait heureux que nous nous convertissions. Attention, il ne s'agit pas pour nous de mener une demi-vie loin des vraies joies de la terre, en mangeant des patates bouillies 2 fois par jour et en nous promenant au milieu des hommes sans esquisser un seul sourire. Non, Jésus veut que nous nous convertissions à l'Évangile. Il ne s'agit pas simplement de ne pas faire de péché, nous en ferons toujours, mais d'accomplir le bien le plus concret, en donnant le plus de bonheur possible aux hommes. Choisissons donc l'amour comme idéal de vie. Et la bénédiction de Dieu descendra sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Elle vient d'ailleurs de descendre. Bon carême.